HDR.
HDR.
Mix.
Tolérance. Diversité. Curiosité. C'est le mix des cultures.
HDR. Le mix de toutes les cultures.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Radio HDR en direct des quais de Rouen sur l'Armada. Alors bonjour Victoire.
Bonjour Baptiste.
Alors aujourd'hui on se retrouve avec les élus du Conseil des collégiens et plus particulièrement des commissions sport et loisirs et culture et patrimoine.
Tout à fait, et aujourd'hui nous allons voir plusieurs interviews concernant la foire Saint-Romain, les dragons vous ramènent, le club amateur de hockey sur glace, l'aménagement des quais et la pratique du football au féminin avec le HAC, le musée maritime, l'escrime et l'Armada.
Merci Victoire, et on va se retrouver dans quelques instants. Avant ça, une petite pause musicale sur Radio HDR.
Yeah, Oulo, من الأراضي الفرنسية سنة 50s. صحينا.
Rebonjour à tous, nous sommes en direct sur la radio HDR, nous sommes sur les quais de Rouen en face de l'Hermione et nous allons voir à présent une interview avec Pauline, Charlotte et Elena.
Bonjour. Alors vous connaissez sûrement la plus grande foire de province, celle qui contient plus de 200 attractions et qui illumine Rouen de ses lumières. Je parle bien sûr de la foire Saint-Romain. L'ambiance de celle-ci attire beaucoup de monde et transforme les quais en un lieu de fête.
Allons découvrir ces gens qui viennent s'amuser dans ces grands manèges et manger des gaufres, des barbes à papa et autres délices.
Ah ouais, franchement, la foire Saint-Romain, j'y viens chaque année et c'est incontournable pour moi. C'est vrai que là, c'est plus grand et plus spacieux, je trouve. Moi, sur les quais, j'aime bien voir les gens, la musique, s'ambiancer, manger des frites, faire des manèges, m'amuser, voilà.
Est-ce que vous venez souvent à la foire ?
Oui.
Vous venez souvent au quai ou pas ? Autre la foire.
Oui, parfois pour aller au laser game ou se balader.
Est-ce que vous venez souvent à la foire ?
Non, première fois.
Sinon, au bord de la Seine, est-ce que vous venez souvent ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Je fais le tour, je me promène, je marche. Je vais de temps en temps, oui, quand même, une fois tous les deux ou trois mois, quoi.
Est-ce que vous venez très souvent à la foire Saint-Romain ?
Je viens assez régulièrement, oui. Je trouve que oui, ça fait partie du cadre portuaire, d'avoir un peu d'animation comme la foire.
Bien sûr, comme vous devez le savoir, la foire Saint-Romain de 2019 illuminera la ville de Rouen du 20 octobre au 19 novembre. Grâce à ses nombreuses attractions à sensations fortes, la foire que nous connaissons et que nous aimons est la seconde fête foraine de France.
Merci beaucoup et tout de suite nous allons retrouver Susan et Sarah qui vont nous parler des forains à la foire Saint-Romain.
Bonjour. Anciennement appelée foire du pardon, la foire Saint-Romain a été établie au XIe siècle. Elle a changé de nom grâce à l'évêque de Rouen nommé Saint-Romain, qui a demandé à un condamné à mort de combattre la gargouille. Une fois celle-ci attrapée, elle a été brûlée vive et le condamné libéré.
Cette foire a changé trois fois de lieu. D'abord place Boulingrin en 1983, ensuite les quais rive gauche et actuellement les quais rive droite, mais cette place n'est pas au goût des forains.
J'adore la foire Saint-Romain, c'est une institution, ça fait très très longtemps qu'elle existe. Elle est très belle et très grande, ça fait partie des plus grandes foires de France. Mais je regrette un petit peu quand elle était sur les quais en ville. Je trouvais ça plus joli.
Depuis combien de temps allez-vous à cette foire ?
Depuis 40 ans. Sur les quais et place Boulingrin. On préférait les quais sur le bord de la Seine, oui, c'est sûr.
Alors, j'aime bien la foire Saint-Romain, mais je n'aime pas l'emplacement. Parce qu'on est trop loin, la clientèle ne se plaît pas ici non plus parce que c'est mal desservi. Les parents ne peuvent plus laisser les enfants tout seuls parce que c'est trop loin des domiciles et tout. Donc la foire Saint-Romain en soi est bien. La clientèle est très sympathique, mais l'emplacement est catastrophique.
Elle a lieu de mi-octobre à mi-novembre. La foire Saint-Romain accueille plus de 220 attractions. C'est la deuxième plus grande fête foraine de France après la foire du trône.
Merci Ilouane, merci Susan et merci Sarah. Tout de suite, nous allons retrouver Victoire et Luca de la commission Sport et Loisirs. Ils vont nous parler de la découverte de l'association des Dragons Rouges de Rouen. À toi, Victoire.
Merci, Baptiste. Donc, nous avons rencontré Jean-Christophe Pereira, directeur et seul salarié de l'association Les Dragons vous ramènent. Et il nous a expliqué les origines, le fonctionnement de l'association et ses finances.
C'est une association qui a été souhaitée en 2002 par le président du club de hockey, qui souhaitait faire une action citoyenne. Il cherchait quelque chose à faire, et à l'époque, l'un des dirigeants, donc le président était Thierry Chex, l'un des dirigeants, Guy Fournier, allait régulièrement sur le Québec, puisqu'il est originaire du Canada, au Québec. Et là-bas, une association existe qui s'appelle les Nez Rouges. Il propose, au mois de décembre, de ramener les gens qui ont fait la fête et qu'on consommait de l'alcool, de les ramener dans leur voiture à la maison pour éviter qu'ils aient un accident sur la route. Ça a été implanté ici, donc le principe est bien de ramener les gens dans leur véhicule à la maison pour éviter qu'ils aient des problèmes. Et en plus de ça, maintenant, depuis une dizaine d'années, on fait de la sensibilisation et de l'information dans les lycées et dans les collèges. On voit 3000 lycéens et collégiens dans l'année. On a ouvert en septembre 2003, donc ça fait maintenant 15 ans. On a ramené 1300 voitures l'année dernière et ça représente à peu près 3250 personnes. Financièrement, on est tous les ans très embêtés parce que aujourd'hui, nous allons chercher les dons. On encadre des soirées organisées pour des comités d'entreprise ou bien des particuliers. Les comités d'entreprise vont fêter la fin de l'année, vont inaugurer un nouvel établissement, donc vont faire une fête et vont nous demander de venir pour faire de la sensibilisation. On viendra avec des éthylotests, on conseillera les invités et éventuellement on les ramènera à la maison. Et pour les mariages, pour les particuliers, même chose, on se rend sur place et on propose aux personnes de se tester. On leur dit s'ils sont capables, en attendant un petit peu, de rentrer à la maison ou pas. Et éventuellement, on les raccompagne. On demande une participation aux organisateurs de soirées. Sachant qu'on a une petite chance avec nous, c'est qu'on est une association loi 1901 et on peut bénéficier, pour les gens qui font un don, d'une réduction de 66%. Imaginons que quelqu'un donne 100 euros, je peux faire un reçu fiscal où il va déduire de ses impôts 66 euros. Au final, le 100 euros, il n'aura donné que 30. Pour nous, c'est une chance. Aujourd'hui, nous n'avons plus que la ville de Rouen qui nous aide. Le département ne nous aide plus. La région ne nous a pas aidés 2 années de suite. Donc, on est en difficulté financière. Pour l'instant, on arrive toujours à s'en sortir in extremis, notamment parce que le club de hockey, qui dépend de moins en moins des subventions des collectivités locales, peut nous aider en fin d'année quand il manque 14 000 euros, par exemple. Donc, il faut aller chercher continuellement de l'argent. On organise des lotos associatifs. C'est pas simple, ça passe pas tout seul. Il nous manque pas grand-chose à chaque fois, hein. Mais il nous en manque toujours un petit peu. Et c'est dommage que la région et le département nous aient laissés et qu'ils n'aient pas fait un arrêt progressif. S'ils avaient pu cesser de nous donner la subvention, on aurait trouvé ça normal parce qu'il n'y a pas que nous. Et on serait même fiers de fonctionner sans l'aide des collectivités locales. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça a été un peu brutal, on a eu du mal.
Nous nous sommes ensuite renseignés sur le bénévolat au sein de la structure, savoir s'il existait des missions autres que le ramassage et si les joueurs de hockey de Rouen, les Dragons, étaient également bénévoles.
Les bénévoles, pour exemple, la nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit du 31, on était 85 bénévoles pendant la nuit. Ça donne une petite idée. Il y avait 30 voitures, il faut à chaque fois 2 personnes par voiture. Et on a un listing, une base de données d'environ, si on remonte sur 2 ans et demi, 350 noms. Il existe d'autres missions, hein, notamment les interventions dans les lycées, les collèges, où on fait de la sensibilisation en rapport avec la sécurité routière. Donc pas mal aussi la consommation d'alcool, de drogue. Donc on va sensibiliser les jeunes au risque.
Les joueurs de hockey de Rouen sont-ils bénévoles de l'association ?
Ils l'ont été au début pour le lancement. Maintenant, c'est plus possible parce qu'ils ont un rythme de match très élevé. C'est incompatible avec des nuits blanches comme nous, on peut faire, puisqu'on rentre à la maison à 6h du matin.
Et maintenant, quelques informations sur les horaires de l'association et sur comment les contacter.
Donc, c'est un numéro de téléphone, 02 35 15 12 07, mais c'est également le numéro de téléphone pour la journée. On répond quasi 24 heures sur 24, hein. Sauf la nuit, hein, la nuit de lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. La nuit de dimanche, on ne répond pas forcément, mais sans ça, oui, on répond 24 heures sur 24.
Donc, nous sommes toujours avec l'association des Dragons vous ramène. Et pour finir, une note légère avec une petite anecdote racontée par Jean-Christophe.
Côté raccompagnement, il y en a une toute fraîche. On a ramené un monsieur qui nous a appelé pour qu'on le ramène dans sa voiture jusqu'à chez lui. Et à un moment donné, il a dit au chauffeur « Ah, vous avez exactement la même voiture que la mienne, le même tableau de bord. » Il avait oublié qu'il était dans sa voiture.
Ah. Je vous laisse donc avec Luca qui va vous parler du club de hockey amateur de Rouen.
Merci Victoire. Avant d'aborder le football féminin, nous allons vous parler du hockey sur glace et plus précisément du club de hockey amateur de Rouen. Nous étions accompagnés de Jean-Sébastien, l'administrateur du club de Rouen, et Ro Lévy, un jeune attaquant U20 évoluant en D2. Nous allons leur poser quelques questions. Pour commencer, quelles sont les principales missions et comment fonctionne le club ?
Sa principale mission, évidemment, c'est apprendre à faire du hockey sur glace. Et depuis quelques années, on s'est diversifié dans nos activités, où on s'est donné un côté volet social aussi, avec une ouverture sur le monde qui nous entoure. Donc, on a travaillé pour les Restos du Cœur, on a fait des opérations sous fond d'écologie. On a fait des présentations de hockey-ball dans des quartiers. Enfin voilà, on s'est ouvert à d'autres choses au fil du temps.
Bon, très bien. D'après vous, quelles sont les valeurs qui contribuent à promouvoir l'éducation citoyenne par le sport, notamment dans cette discipline ?
Les valeurs, elles sont importantes pour nous. Le respect du club, le respect du maillot, le respect de notre logo. Ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout pour nous. On est un sport d'équipe. Il y a le club, l'équipe, les joueurs. Nous, on a beaucoup de respect pour notre club. C'est une institution. C'est un club qui est créé depuis plusieurs dizaines d'années, qui est le plus titré de France. Donc c'est le meilleur club de hockey mineur en France. Et à travers ça, on véhicule plusieurs aspects du sport. L'entraide, l'esprit d'équipe, le courage de s'entraîner, parce que donc, c'est quelque chose de difficile, donc il faut un peu de courage quand même pour venir tous les matins s'entraîner, tous les soirs s'entraîner, aller à l'école entre-temps, enfin voilà. Il faut du courage pour ça, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là qui travaillent énormément et qui sacrifient une partie de leur adolescence. Vous verrez certains d'entre vous, parce que vous êtes un peu jeunes encore, quoique, le samedi soir, vous ne serez sans doute pas dans une patinoire en train de jouer au hockey, la plupart d'entre vous. Nous aussi, nous on est dans une patinoire. Et puis après on rentre et puis on va se coucher parce qu'on est mort et puis et on n'a pas la vie d'un adolescent normal. Donc c'est toutes ces valeurs-là d'entraide, de solidarité entre nous, bah, c'est une vraie famille. On n'est pas parents mais pas loin. On vit au quotidien ensemble, donc forcément il y a des liens qui se créent. Le sport, notre sport, véhicule toutes ces valeurs-là de voilà de. Pour moi l'esprit d'équipe c'est le mieux, voilà, c'est le truc le plus important. L'esprit d'équipe, l'entraide, la solidarité. C'est quelque chose qu'on doit retrouver dans la vie. Qu'on aimerait retrouver dans la vie, et on les entend dans les médias, etc., parler de solidarité, etc. Et ça, c'est des mots, voilà, c'est des mots. Nous, on essaie de l'appliquer, ça, c'est différent. La solidarité, vous voyez, là, je suis là, pourquoi je suis là? C'est pour échanger avec vous, vous parlez de mon sport, vous parlez de mon club, vous présentez un jeune qui a du mérite de faire ça. Pourquoi je vais aller dans les quartiers avec des crosses et tout ça? Pourquoi je vais aller m'embêter avec ça? Parce que je crois à la solidarité, parce que je crois à la mixité, parce que je crois au fait que tout le monde doit pouvoir avoir la chance de pratiquer un sport, quel qu'il soit. Et ça, ça tient qu'à nous, hein, avec nos petits moyens de le faire. Ça tient qu'à moi, à lui, à toi, et ainsi de suite. Tous, avec nos petits moyens, on peut arriver à faire quelque chose. Ah, c'est rien, hein. Je vais passer une heure avec vous, je vais passer une heure dans les quartiers à jouer à la balle, je vais pas... Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font avancer le monde. C'est là où je réponds à ta question avec la citoyenneté. C'est comme ça. Alors, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un mec qui va faire un grand discours. Je n'ai pas le pouvoir de changer le monde, pas du tout. Je n'ai pas le pouvoir de faire des lois non plus. J'ai encore moins les compétences ni les qualités pour ça. Mais par contre, j'ai le pouvoir de changer à ma façon le monde, avec des petites choses. Et c'est ce qu'on essaie, nous, de faire.
Oui, c'est vrai que le samedi, moi, je suis là en train de jouer alors que mes copains ils sortent. Il faut savoir que moi, ma vie privée, elle a été assez arrêtée, quoi. Je suis parti de chez moi à 14 ans. Je suis venu en internat à Pasteur, Petit Couronne, ouais. Bah, j'ai fait toute ma jeunesse ici. Je suis loin de mes parents. Avant, je rentrais le week-end, mais là, depuis que je suis passé en U20, j'ai match le week-end samedi et dimanche dans toute la France. Donc, je rentre voir mes parents pendant les vacances. Sauf que les vacances scolaires, on a 3 jours par vacances de libre. Donc, je rentre 3 jours. Et ouais, la vie est dure. C'est cher le hockey, mais c'est aussi très très dur d'être sportif de haut niveau mentalement et moralement. On a des moments où on est faible. On est sur la glace, on est mauvais. En dehors, on a l'impression que tout le monde est contre nous. L'école, ça va pas. Et là, à ce moment-là, t'as envie d'arrêter, mais tu te dis que tous les sacrifices que t'as fait, ça rimera à rien jusqu'à si t'arrêtes. C'est ça qui est motivant. Après, à l'école, on nous prend souvent pour des branleurs. Mais ce qu'ils savent pas, c'est ce qu'on fait en dehors. C'est vrai qu'on s'entraîne à 8h, on finit à 9h. On arrive à 9h30 en cours. Ça nous arrive de somnoler en cours et tout le monde nous dit qu'on n'aura pas d'avenir et tout. Et l'année dernière, on est 15 à avoir passé le bac, on est 15 à l'avoir eu. On a eu de l'aide. On a eu des 2 mois de travail dur, mais au moins on prouve qu'on n'est pas n'importe qui et qu'on peut, y arriver en faisant du hockey, les études, sans voir ses parents.
C'est une vie de sacrifice. Je pense que j'aimerais pas leur vie parce qu'elle est trop compliquée pour moi, elle est trop dure pour moi. Mais c'est une vie qui est respectable et qui forge le caractère. Qui forge le caractère parce que dans quelques années, ça fera des adultes responsables, je l'espère en tout cas, et qui auront des vraies valeurs autour de ça. Effectivement, le but, l'objectif pour chacun des enfants ici, c'est d'aller le plus loin possible. Alors le plus loin possible, c'est dans le sport, on ne se fixe pas de limite. Hein. C'est l'équipe de France, c'est ce qu'on appelle la NHL, c'est le championnat américain qui est le plus coté dans le monde. Voilà, on ne se fixe pas de limite. On verra, c'est là où ça nous emmènera. Mais voilà, ça prend du travail. Donc Lévi, je ne sais pas où il sera dans quelques années. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, ça sera une expérience de vie.
Avant de passer à la rencontre de l'équipe féminine du Havre, le club de Rouen de hockey favorise-t-il la pratique féminine?
On est connoté ultra, ultra masculin et il n'y a que les garçons qui peuvent faire du hockey. C'est pas vrai. Les filles peuvent faire du hockey. Et on essaie aussi voilà, de dynamiser cet aspect-là. En proposant aux filles de venir sur des journées portes ouvertes pour découvrir le sport, pas qu'entre filles, parce qu'on peut pratiquer avec des garçons, Et on essaie aussi de s'ouvrir sur cette mixité. Alors c'est le mot à la mode, là, la parité, etc. C'est pas le but pour nous de faire de la parité, mais c'est d'ouvrir aussi notre sport à un public féminin qui peut aussi prendre du plaisir à jouer. Et on n'est pas, voilà, c'est pas que un sport de garçon.
Eh bien, nous remercions Sébastien et Lévi pour avoir répondu à nos questions.
Et merci, Luca. On va se retrouver dans quelques minutes sur HDR. Mais avant ça, une petite intermède musicale.
Aspire to behold what the fire do. Music rap like I'm higher too. Cause demand and supply it too. So let me vibe with you. I bring terror like Al Qaeda crew and walk smooth like I'm riding through and hypnotize the room. Some macaronians who drive a two. I turn it out like the guy but do. Now hear the siren boom. Rap from the gutter to the quiet pew. Leave it for miles feeling kinda blue. I got the jazz like a tribe called cool. Rock cool's colors like it's 92 and peep the science do. From 8-track down to vinyl too. My sound suit down, recline on you. I'm from the line of Jew. Whack and see, step aside for cool. I'm past the fist with some violent views. I switch aside like ooh. Keep on my hips like Rose Nile and Duke. And dude on you from the height of Zeus. Just to let my little cousin in. Own 10 salons for weight. I stay sunning them, stunting with my estrogen. Perfume the room to punish them. Hip hop to rap, fits of fumbling and mumbling. I shape shift and take the form of Susan Cunningham. Today I'm just cool, the self governance I fronting with. Non-profit MCs, my mental state funding them. When I'm alone, I outnumber them. When I'm behind, I'm in front of them. They glorify suffering. Breastfed the track, but they won't say I love them. Property values rise the minute cool stumbling. I smack spring straight. The summer in, why your cats fall for winter wonderland. Wondering why I leave them struggling to construct a sentence up again. Type to get on this lap bump and grind it up against. Make my man scream old dear like Mr. Snuffle up against. Got heads from BK to Bangkok bumping this. Nympho flow to let you know who you fucking with. I'm the reason why Chris Cross was jumping it. Make hardcore thugs, finger snap, double dutch and skin. Hustle them, yank the NPC cord from under them. Say the gun talk for NRA with Charles and Huston it. Keep the whack rap till BET discovered it. We be hip hop in the park behind the jungle gym. Ah, Mary Burette and Flip, rock Charles Dutton in. Hype the crowd up and leave the stage like George Jefferson. Grind your hips up.
On se retrouve sur Radio HDR et on va retrouver notre ami de la commission Culture et Patrimoine. Bonjour Kassim.
Bonjour Baptiste.
Tu vas nous parler de l'aménagement des quais.
Les quais de Ron ont été aménagés en 1999 car auparavant les quais étaient fréquentés par les marchands. C'était un lieu de travail et dangereux pour le public, donc personne ne les fréquentait. Mais à présent, si vous faites un petit tour sur les quais de Ron, vous trouverez des promeneurs sportifs et des restos, ce qui était impossible avant l'aménagement.
Je trouve que ça a été bien aménagé. Là, depuis, au début où on venait, c'était encore un peu tristouné, un peu pas en ruine, mais presque. Non, ça a été bien réhabilité, je trouve. Ils ont gardé l'esprit aussi avec la brique et tout. Non, je trouve que c'est sympa comme aménagement et comme ambiance. Et c'est moderne tout en gardant l'esprit ancien. Donc moi, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que ça a été bien fait.
Alors, sur la rive droite, je déplore qu'il n'y ait pas assez d'arbres. Ça manque de végétalisation. La rive gauche, c'est génial. Mais alors la rive droite, il y a des cafés, des restaurants, mais il n'y a pas de végétation. Et l'été, c'est insupportable.
Après 1999, les quais ont connu une véritable renaissance. Ces lieux sont très fréquentés par les Rouennais. Ils peuvent se retrouver et se détendre. Les quais sont bénéfiques à l'évolution de la ville de Rouen.
Merci Kassim. Et tout de suite, nous allons retrouver Cassandre et Alexandre qui sont dans l'actualité puisqu'ils vont nous parler de l'équipe féminine de football du HAC.
Le 27 février dernier, nous nous sommes rendus au stade Océane pour rencontrer les joueuses du foot du HAC. Nous leur avons posé des questions sur le sport au féminin. Comment expliquez-vous la très grande différence entre les salaires moyens masculins et féminins, 47 700 euros pour les hommes contre 2 500 euros pour les femmes?
Le haut niveau dans le football masculin existe depuis, on va dire, 40-50 ans. Aujourd'hui, le football féminin commence à prendre son envol. Donc les différences de salaire sont certainement dues à cause de ce genre de choses.
Je pense aussi que le fait que ce soit peu médiatisé encore.
Ça va avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le haut niveau masculin, c'est 50 ans. Donc les télés se penchent plutôt sur le football masculin que plutôt sur le football féminin. Mais là, ça y va, ça prend son envol et on commence à toucher des salaires quand même très intéressants dans le football féminin.
C'est les droits télé en fait qui font qu'il y ait de l'argent ou pas dans le sport.
Partenariat, sponsor, c'est public dans les stades. Nous, on joue au stade Océane, on a 500-600 supporters, spectateurs. C'est très pauvre, on va dire c'est très pauvre au niveau spectateur.
Cette différence est peut-être aussi expliquée par la médiatisation beaucoup plus faible du foot féminin comparé au foot masculin. Cependant, le football féminin bénéficie désormais d'une meilleure image qui pourrait contribuer à son développement médiatique.
Il n'y a pas deux footballs, il y a un football masculin, un football féminin. Donc on ne peut pas comparer les deux non plus. Les filles ont une très bonne technique. Ce qui fait la différence entre les filles et les garçons, c'est juste un problème de puissance, de vitesse dans la prise de balle, dans la passe, hein, ce que j'appelle la vitesse gestuelle, et la vitesse de course. Mais sinon, au niveau qualité technique et relation entre les joueuses pour avancer le ballon vers le but adverse, bah, il n'y a pas grande différence. Elles ont beaucoup de choses à apprendre, mais comme elles sont énormément à l'écoute, elles apprennent vite. La différence encore qu'il pourrait y avoir, c'est elles font pas de chichi. Elles se roulent pas par terre. Voilà. Mais c'est la vérité. Moi, je le découvre, mais c'est la vérité. Après, alors moi, ce que je mets en place au niveau des filles, je veux une équipe très agressive sur le porteur. Je veux une équipe qui fait mal dans les duels. Et bien souvent, c'est le cas. Souvent, l'adversaire tombe par terre, a du mal à se relever au bout d'une heure de jeu. Hein, alors que nous, on est là, on est présent et on fait un peu style rouleau compresseur. Et on gagne nos duels. Et c'est ce que je veux. Et je travaille beaucoup le duel à l'entraînement parce que je vois pas pourquoi les filles ne seraient pas dures dans les duels. Et c'est marrant parce que je dis dur et je dis souvent dur. Allez, dur, 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 dur. Et les filles répètent ça. Maintenant, quand elles jouent, la coéquipière va dire dur, dur dans le duel, dur dans le duel. Ouais, donc, c'est plutôt sympa quoi, parce que ça veut dire que ça commence à rentrer. Et je pense qu'on peut faire la différence là-dessus. En plus de la qualité technique, la qualité de jeu, si en plus on a une bonne réaction à la perte et qu'on est vraiment présent dans le duel, je pense qu'on peut faire des grosses différences.
Les meilleurs clubs européens féminins ont l'identité d'un club masculin. L'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et même le HAC. Voyons si ces sections féminines dépendent forcément d'un club masculin.
Si on veut atteindre le haut niveau, je pense que c'est important que la section féminine soit adossée à une section masculine. Ouais. Et notamment professionnel. Il y a une demande de la Ligue de football national de mettre en place donc le football féminin par l'intermédiaire des clubs professionnels. Les clubs professionnels ont dans l'obligation de créer une section féminine. S'ils ne créent pas cette section féminine, ces clubs ont des amendes. Alors certains clubs, je ne vais pas vous le cacher, certains clubs préfèrent payer des amendes que de créer une section féminine. C'est un peu dramatique, mais c'est comme ça.
Les clubs féminins qui brillent et qui vont vers le haut en ce moment, ce sont des clubs qui sont professionnels chez les garçons en fait. Parce que ce qui est bien, c'est que nous, on arrive à la section féminine et on s'intègre directement à un centre de formation où il y a déjà tout, il y a déjà la salle de muscu, les terrains, les prépas. C'est la communication du stade Océane qui travaille pour les pros, qui travaille pour nous. En fait, tout est déjà rodé et ils se servent de notre équipe pour continuer leur travail. Donc on n'a pas tout à créer de A à Z en fait. On se sert de ce qui est déjà fait ici pour les garçons et on concerts pour les filles.
Et les clubs qui marchent le plus en France et en Europe, c'est Paris Saint-Germain, Lyon, Montpellier. Et c'est des clubs professionnels de haut niveau.
Lors de l'adolescence, la pratique du sport diminue surtout chez les filles. Ces diminutions étaient liées à la réussite scolaire.
Je pense que c'est des cas très individuels. Après, est-ce que c'est culturel ? Je pense qu'en France, on a moins cette culture du sport scolaire que, par exemple, on peut retrouver aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, je le sais un peu parce que j'ai l'occasion d'en discuter avec les joueuses. Et aux États-Unis, par exemple, pour entrer à la fac, il y a plusieurs biais, mais un des biais, par exemple, c'est de rentrer parce que tu as un talent dans le sport. Et du coup, ça peut être un motif de motivation pour les garçons, pour les filles, de continuer à s'engager dans une pratique sportive. Ouais, ça leur permet d'avoir des bourses, en fait, c'est ça. Nous, les joueuses, elles ont eu la possibilité d'aller à la fac, payer, parce qu'aux États-Unis, les facs sont très très chères, parce que c'était des bonnes joueuses de foot. Et donc, du coup, d'avoir cette motivation-là, je pense que c'est un biais pour encourager les adolescents à continuer dans le sport. Je pense que c'est aussi culturel. Enfin, je veux dire, nous, les Français, on est moins sportifs que, par exemple, aux États-Unis. Je pense que c'est aussi culturel.
Le club du Havre peut-il accueillir des sportifs handicapés ?
On a une section handicap, donc on en a plusieurs, même il y en a qui sont en chaise roulante et on a aussi des malvoyants. C'est obligatoire de toute façon. Dans un club professionnel comme ça, tu es obligé de répondre à certaines exigences, et notamment sur le handicap, où ils sont totalement intégrés dans la vie du club. Ils font des championnats, ils font la Coupe de France, et ils sont super bien suivis, même au niveau des budgets, ils ont des budgets qui sont alloués pour eux et
ouais,
ils sont complètement intégrés dans la vie du club.
Quoi. Et on a ici au Havre, on a été ici champion de France plusieurs fois, des malvoyants.
Et enfin, la moyenne de pratique du football est plus élevée dans les quartiers populaires que dans la moyenne nationale. Est-ce dû à la popularité de ce sport ?
Et ça, c'est l'ancrage qui fait ça et dès qu'il y a une manifestation de l'ancrage ici, avec mon parrain ou autre, les filles sont sur le terrain pour encadrer, pour jouer avec les gens, avec les gamins.
Et avec mon parrain, en fait, c'est le A qui se déplace dans tous les quartiers.
Ouais.
Et on envoie des filles de l'équipe première pendant les vacances. Et puis après, on fait des journées aussi ici où on regroupe tous les quartiers. Et là, toutes les filles de l'équipe première sont là et prennent des ateliers. Et ça, c'est intéressant parce que puis nous aussi, ça nous permet d'avoir un petit visu sur des joueuses potentiellement intéressantes. Dans l'agglomération, complètement.
Merci tous les deux, nous nous retrouvons dans quelques minutes sur la radio HDR après une interlude musicale.
Ki do mo adama berebu aljanna bombi aljina bungi dokna ruhu duguna jëm fuduna taw su fekna minde tuduna gën ci aduna wala bon ci aduna xet ci xewalam duñu ragalam roy ci regalam fu mu yam neex nakara ki banex bëgg life just to life duñu ci bala ngay téla dem bu jaré moy roy ci li gën moy li fi gën lew tok life gën deggo life gën jaar fa gën wala bay fa gën yoon ñi tan ci ben ñaari tali nit natom nit natom tabi kasom mu ci ni ram mu kabek batom gëm la wedd ngelaw gaddu la sey jëf ciatu la fi nga yam won nga lo aduna gungé la tay ngay dem ses rek naki rek mun kir gungé la dundu delu ci komam dundu borom kun fa yakun dund ak delu sum bisub tay lay rañan dem barzak dem ci rahman borom sak ay sama xot ak sama rur takaliko baye ganaw alal xarit dom ak ci ko jeuf ñi ma daan sant ci téré dima ko téré tay duma reer tasawuf daan wax ne laakhira ku nek sey jeuf lay ouf leeru ibrahim ci sama ruhu miskin ma don selakin di dox ci siratal mustaqim ruye nga tabi aljana shaytan nga tabal ñoñom jahannama allah rakay aqal joxna ma dund bu de jeexal tabal ma ci dund gu du jeex de rek wor jofam de da fenye jofam de da fenye ni
Sally Jeff, Sally Cuff, Kuliru Uff, Yewulen. Kisakuru Yewulen, Ti Atem, Otem, Mangam Yen Senchem. Tenny Tu, Tenny Tu, Tenny Yu, Te. Taiden and Yehel, Yetagan, Lindam Toskare Yehel, Nesagan, Pe Aklat Masse. Nyop Tahoe Disapayam, Oh, Masse. Buri Dira. Joy dem sara xok ñaan ay jam sen bop yeketti ku du ndombal tak du dal du yere ben bour rek le day tay malikul mulki mom rek day satu amul kawak suuf amul bi ak bay moy deug bes bangi mbolem fore sa ba yonen ci wax ñu ci kurangi pert ngeen di nak mas ku ci ma sa di ngat mas Kuko dingat pert Nyom de pert Nopu yime dege Masumo ko dege Nime yege Masumo ko yege Yirmane ter Kisama imbag Buntu ube Kuna Ngelo luner Luner Ofsoru Lila don khar Mangi jegi sirak Agno nyutaha Di jegi Nanti kau salah huh? Resurrection huh? Jauh sampai dia tak fikir Jauh sampai dia tak fikir Di solat nama Nafu Saya dia cuci Jauh sampai dia tak fikir Jauh sampai dia tak fikir Di solat nama Nafu Saya dia cuci
Et on se retrouve sur Radio HDR tout de suite. Christophe qui va nous parler des musées maritimes.
Oui, bonjour Baptiste. Effectivement, à quelques pas d'ici, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le musée maritime de Rouen qui est un des lieux finalement dont la création est intimement liée à celle de l'Armada et des voiles de la liberté à l'époque. Et nous sommes allés à la rencontre pour savoir un petit peu plus en détail pourquoi ce musée a été créé, à quelle époque et qu'est-ce qu'on peut y trouver.
1989, donc il y a 30 ans, pour la première Armada. Eh bien, le musée a ouvert au public. C'était les prémices. Tous les bénévoles qui ont regroupé tous ces objets-là ont commencé à les mettre en valeur. Il y a eu aussi, au fur et à mesure du temps, des salariés. Et puis, petit à petit, toujours dans la passion, ils ont aussi recruté un charpentier de marine. Ils restaurent des bateaux pour les privés, mais aussi des bateaux pour le musée, des bateaux du patrimoine. Par contre, il ne restaure que des bateaux en bois. Il y a la réplique de la Dauphine au 1/5e. Et cette réplique, vous allez voir en fait comment on construit un bateau en bois. On construisait plutôt un bateau en bois au moment de la Renaissance. Mais vous verrez qu'on construit toujours de la même façon.
Alors dans ce musée, on peut trouver de gros moteurs de péniches, des répliques de bateaux, des plans, et donc ce fameux atelier où on peut découvrir également donc les artisans en train de restaurer ou de rénover d'anciens bateaux. Et entre autres, on a pu découvrir aussi en fait des anecdotes assez marrantes au sujet de la vie du port, et en particulier, on a pu découvrir que le Nautilus, ce fameux sous-marin que vous connaissez sans doute par Jules Verne, en fait a fait ses premiers pas, je dirais, dans l'eau à Rouen.
Il n'a pas eu une longue histoire, parce que si les principes de Fulton étaient bons, l'ingénieur américain qui l'a conçu, les moyens techniques à l'époque ne permettaient pas réellement. Alors il a plongé à l'étal des hautes mers, ce qui à l'époque donnait à peu près, sur la Seine, environ 4 mètres de profondeur. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais enfin... Vous savez, pour l'époque, c'était au début de Napoléon, voir un bateau qui disparaît et puis qui remonte, c'était extraordinaire. C'était en bois. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps sous l'eau parce qu'ils avaient vite fait de consommer l'oxygène qui était dans cette espèce de tonneau un peu fuselé. Et puis les gars, ils consommaient de l'oxygène parce qu'ils pédalaient pour faire tourner une hélice. Tant qu'on n'a pas eu de moteur capable de fonctionner sous l'eau, c'est-à-dire le moteur électrique avec des batteries, ben, le sous-marin n'avait pas d'avenir. Hein, si vous relisez « 20 milieux sous les mers », vous remarquerez que Jules Verne ne parle pas du tout de la propulsion du Nautilus. Hein. Il parle d'électricité, mais comment on la fabrique, ça il n'en parle pas. Il élude le principal problème.
Alors la première plongée du Nautilus est effectuée donc à Rouen en 1800 et ensuite les essais suivants se sont poursuivis au large du Havre. Donc l'histoire en fait du Nautilus est finalement très liée à celle de la Seine et puis ensuite les expérimentations qui ont pu suivre se sont faites notamment à Camaret non loin de Brest. Donc voilà, vous pouvez découvrir une réplique du Nautilus à la Cité de la Mer pour ceux que ça intéresse.
Merci Christophe. Nous allons donc rejoindre Manon et Baptiste, membres de la commission Sport et Loisirs, qui vont nous parler d'escrime.
Alors, nous avons eu le privilège de nous rendre à Dieppe au club d'escrime, l'association Les Fines Lames de Dieppe. Donc, c'est une association qui est entraînée par Nicolas Corruble, qui est champion du monde des maîtres d'armes en 2017, qui a été champion du monde en 2017. On va vous présenter les règles de cette discipline.
Il faut aller toucher l'adversaire, on va dire toucher le premier ou toucher sans se faire toucher. Et puis, y a aussi tout ce qui est respect de l'arbitre quand on va combattre. On ne peut pas faire ce qu'on a envie. Voilà, il y a des petites règles toutes simples. Là, vous avez les pistes sur lesquelles vous êtes et on doit toujours se mettre au même endroit pour commencer un match. On ne peut pas sortir de la piste. À chaque fois qu'il y a un point, on se remet au milieu. À la fin du match, on doit saluer son adversaire. Enfin, c'est les règles, on va dire, comme la plupart des sports, finalement.
Le club bénéficie du dispositif Riposte pour les femmes atteintes du cancer du sein. Nous les avons rencontrées et posé quelques questions, comme la signification du cycle Riposte et comment les maîtres d'armes sont formés pour ces interventions.
Le dispositif Riposte, c'est une association qui a été créée sur Toulouse il y a une quinzaine d'années à peu près, où c'était une anesthésiste et un kiné qui ont mis ça en place. Le but du jeu, en fait, c'était de permettre aux femmes ayant eu un cancer du sein de pouvoir travailler différemment leur rééducation. Et plutôt que d'attendre longtemps comme ça pouvait se faire avant, en fait, de les mettre tout de suite en situation directement après l'opération pour pouvoir retravailler la mobilité de l'épaule. Donc voilà, le dispositif Riposte, en gros, c'est ce que le docteur Ornus Rage propose, c'est pouvoir se protéger avec l'arme, c'est faire face au cancer et riposter pour pouvoir aller toucher après. Alors on a suivi une formation sur Toulouse pendant une semaine où on va nous apprendre déjà ce que c'est que le cancer, comment ça fonctionne et puis les opérations qui peuvent être mises en place et tout après le suivi finalement que les femmes vont avoir, que ce soit avec les infirmières, avec le psychologue pour certains, enfin tout ce qui va toucher au cancer. Et après en fait on a une partie de formation pratique sur tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça leur soit bénéfique au niveau de la rééducation. Et tous les deux ans, on a un stage de formation, on va dire, de remise à niveau.
Depuis que le dispositif Riposte existe, certaines femmes atteintes du cancer font de l'escrime. Nous leur avons posé quelques questions sur les bénéfices de cette discipline et connaître ses contraintes.
Alors, la pratique, elle est bénéfique parce que, du coup, on se bouge. Et du coup, la maladie vient derrière. Et puis c'est un complément, ça veut dire que comme on se bouge, on va retrouver une activité physique, on va retrouver notre corps, on va se sentir mieux dedans. Et du coup, progressivement, on passe à autre chose que la maladie. L'autre chose qui est bénéfique pour nous, c'est effectivement la mobilisation de l'épaule, comme le disait Nicolas. Et le fait finalement de faire de l'escrime comme ça, ça contribue à notre rééducation.
On s'amuse bien surtout, enfin, oui, c'est la bonne ambiance et tout. Oui. Quoi.
C'est un tout aussi, en fait on va travailler sur deux volets. Il y a le volet, on va dire, physique, pour pouvoir retrouver de la mobilité, sur les petites choses du quotidien. Alors après, pour vous, ça peut paraître surprenant, mais je me souviens d'une des femmes qui était arrivée au bout de 15 jours, 3 semaines, qui était heureuse d'avoir pu accrocher son linge. C'est un truc tout bête, mais juste le fait de faire ce geste-là, finalement, pour les personnes qui ont été touchées d'un cancer du sein, qui ont subi une opération, c'est compliqué. Aller chercher un placard en hauteur, pouvoir se coiffer, accrocher un soutien-gorge. Enfin, ce sont des petits gestes qui, pour vous, paraissent anodins et qui, finalement, voilà. Et pour elle, en fait, finalement, c'est super important. Et le fait de travailler régulièrement, on peut retrouver énormément de mobilité. Voilà. Et puis, ce que tu disais aussi, au départ, finalement, il n'y a pas spécialement de lien avec les autres gens parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement envie de sortir. On est toujours confronté dans la semaine à le cancer, que ce soit aller faire les séances de chimio, aller chez le kiné, toutes ces petites choses, aller voir le médecin. Et puis, ben, la séance d'escrime, c'était aussi un moyen d'évacuer, de pas penser à ça, de pouvoir discuter, d'échanger avec les autres. Et puis, donc, en plus de faire du bien au corps, ben, de faire du bien à sa tête, à son esprit, quoi.
Ça nous a apporté de créer un groupe, hein, entre nous. Hein. Ça nous a créé des échanges, hein, un partage, hein, et des liens d'amitié qui sont devenus de plus en plus forts. Et donc ça, c'est tout bénéfique.
Ouais. Et on a hâte le lundi de revenir.
Oui, c'est vrai, l'ambiance est bonne et tout, oui. Les goûters, etc.
On ne se retrouve pas pour parler du cancer. Il est derrière.
Merci Manon et Baptiste. Nous nous retrouvons dans quelques minutes sur la radio HDR après un petit instant musical.
HDR. Tolérance, diversité, curiosité. C'est le mix des cultures.
HDR.
On se retrouve sur Radio HDR, toujours en direct de l'Armada et toujours avec le conseil départemental des collégiens. Alors, Lorenzo a été interviewé des passants sur l'Armada, justement. Lorenzo.
Oui, bonjour. Vous connaissez sûrement l'Armada, ce grand événement. Nous sommes allés demander aux gens s'ils avaient des souvenirs et ce qu'ils pensaient de l'Armada. Nous sommes allés sur les quais à la rencontre des passants afin de leur demander leurs souvenirs. Malgré que la première édition de l'Armada ait lieu en 1989, certaines personnes ne connaissent pas l'Armada ou vont assister à leur première Armada.
Il y a de l'animation, c'est bien organisé, des beaux bateaux évidemment.
Beaux bateaux, du monde, l'animation, c'est très bien.
Ah bah oui, on a des très bons souvenirs. On a le bateau mexicain où on a tous les marins qui sont sur les vergues, sur les mâts et tout ça. des bateaux russes. Enfin, il y a des bateaux qui sont des voiliers qui sont magnifiques. Oui. Oui. Le côté moque, je crois, le mexicain, et puis bah, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a des bateaux magnifiques.
Ouais, ouais. Surtout celui qui se met près de chez nous, là-bas, là où c'est qu'il y a le truc là, bleu, là, et qui danse sur le bateau. Alors celui-là, c'est le meilleur, c'est le magnifique. Je ne sais plus son nom, le nom du bateau. Enfin, mais celui-là, c'est celui que je préfère.
Donc vous comptez y retourner cette année?
Ah, exactement. Et j'ai même invité mon frère.
Bah vive l'armada, alors!
Nous avons constaté que les habitants de Rouen aimaient et attendaient cet événement avec impatience. Les Normands y sont très attachés, ils ne sont pas prêts d'abandonner l'armada.
Merci beaucoup, nous retrouvons maintenant Eva. Eva qui est membre de la commission culture et patrimoine qui va nous présenter la création de l'armada.
Bonjour, bonjour Victoire. À l'occasion du 30e anniversaire de l'armada de la liberté, Patrick Herr a souhaité faire venir la statue de la liberté. Elle prend place au musoir sur les quais de l'armada. Un hommage est ainsi rendu à la première course de la liberté que le président fondateur organisait à Rouen et qui donna lieu par la suite à la première édition qui s'appelait les voiles de la liberté en 1989. La statue qui trône Barentin est une reconstitution parfaite de la Lady Liberty faite en polyester. Elle mesure 13,5 mètres de haut et pèse plus de 3500 kilos. Le vendredi 7 juin, l'arrivée de l'Hermione avait rendu un hommage officiel à la statue de la liberté. Parlons peu, parlons histoire. Au début des années 1980, Jean Le Canuet, maire de Rouen, cherchait une idée pour animer et faire revivre les quais. Son adjoint, Patrick Herr, lui propose une course entre Rouen et New York afin de célébrer le centenaire de la Statue de la Liberté en 1986.
1986 fêtait les 100 ans de la Statue de la Liberté. Comme tu l'as dit, elle était partie de Rouen sur un voilier qui s'appelait l'Isère. Et pour commémorer le 100e anniversaire, j'ai d'ailleurs une affiche de l'autre côté, nous avons fait venir des multicoques à Rouen. Personne ne croyait au succès de ces multicoques dans le port de Rouen. Donc les multicoques sont venus à Rouen en 86 pour commémorer la traversée par l'Isère de la Statue de la Liberté.
Le 17 juin 1885, la statue arrivait à New York à bord de la frégate l'Isère, fin d'un voyage parti de Rouen en mai 1885. La statue avait été imaginée par le sculpteur Bartholdi, construite et offerte par la France. Le 28 octobre 1886, elle fut dévoilée au grand jour.
Merci Eva. Maintenant, retrouvons Adam qui va nous parler de la levée des drapeaux de l'Armada.
Bonjour. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe qui a organisé l'Armada afin de savoir comment fait-elle pour faire venir de très beaux bateaux. Comme l'Hermione qui fait partie de ces bateaux extraordinaires qui nous font tant rêver. Ce bateau présent à l'Armada est une reconstitution faite par l'association Hermione entre 1998 et 2014. Cette frégate mythique avait emmené Lafayette vers l'Amérique le 21 mars 1780 pour combattre aux côtés des insurgés américains qui luttaient pour leur indépendance.
Alors l'Hermione, ça a été très compliqué pour la faire venir. C'était une magnifique frégate, il a fallu 17 ans pour la construire. Elle est demandée dans le monde entier. D'ailleurs, l'année prochaine, elle part pour 2 ans faire un tour du monde. J'ai réussi à la faire venir. Comment ça a été très compliqué, parce qu'il faut payer l'Hermione, l'association, c'est comme nous, ils ont besoin d'argent pour faire vivre l'équipage. Ce sont des gabiers qui sont à bord, ils sont 80. Donc il faut les entraîner, il faut les avoir pendant 2 mois, parce que c'est très particulier, tout se fait à la main sur ce grand voilier. Donc il faut les avoir en stage, ça coûte de l'argent, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les payer, donc c'est un coût. Donc le coût était trop important pour nous, Armada, on ne pouvait pas payer. Donc on a divisé sur beaucoup de ports normands, à commencer par Cherbourg, Caen, Ouistreham, Dieppe, Caudebec-en-Caux et Rouen. Et je souhaite et j'ai souhaité que ça soit gratuit pour tout le monde. Alors ça va être compliqué parce qu'on va voir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui veulent monter sur l'Hermione.
À l'Armada, il y a aussi des bateaux d'État. Et nous avons demandé à Patrick Herr comment il fait pour faire venir des bateaux de marine nationale et des voiliers d'école.
On ne fait pas tous les pays du monde, hein. Malheureusement d'ailleurs. J'aimerais bien aller au Chili, au Brésil, au Mexique, etc. Non, non. Je vais à Paris, nous allons à Paris. On a une commission des voiliers d'État. Les voiliers d'État sont les voiliers qui viennent gratuitement. Les autres, je les paie. Mais les voiliers qui appartiennent à des nations, en EPEPA, ils viennent gratuitement, mais il faut aller voir les attachés navals, les attachés de défense, les ambassadeurs. Donc nous allons à Paris, on rencontre l'ambassadeur, l'attaché naval, et puis on lui dit, ben, telle année, on aura un rassemblement de grands voiliers, pouvez-vous nous aider? Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord. Grâce à tout ce que nous a dit Patrick R., nous comprenons mieux pourquoi l'armada nécessite tant de temps à être préparée.
Merci beaucoup Adam, et ça tombe bien parce que nous sommes sur les quais juste en face de l'Hermione et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique.
Alors l'émission touche à sa fin, mais afin de mieux connaître le pourquoi du comment de cette émission, nous avons invité sur notre plateau Pascal Val, qui organise le conseil des collégiens du département de la Seine-Maritime. Alors expliquez-nous tout, qu'est-ce que le conseil des collégiens ?
Alors bonjour à tous, le conseil des collégiens en fait c'est une assemblée de jeunes issus des collèges du département qui sont répartis dans 5 commissions thématiques. Aujourd'hui, les jeunes qui sont présents sur ce plateau sont issus de la commission culture et patrimoine et sport et loisirs. Il faut savoir qu'on a aussi la commission solidarité, santé, citoyenneté et vivre ensemble et la commission environnement et développement durable.
Et pour combien de temps ces jeunes sont-ils élus ?
Alors ces jeunes, ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Ils nous rejoignent donc à l'hôtel du département pour des commissions le mercredi après-midi.
D'accord. Et y a-t-il des conditions particulières pour être élu ?
Alors, les conditions pour être élu, il faut être élève dans un collège du département. Il faut être en classe de 5e ou de 4e, se présenter en binôme et puis surtout, il faut être élu.
Et je crois qu'il y a une élection bientôt, non ? Au début de l'année 2019, c'est ça ?
Alors effectivement, le mandat, les jeunes qui sont actuellement dans ce mandat, ben, pour eux, c'est la fin puisque la séance plénière de fin de mandat se déroulera le 3 juillet prochain. Et dès la rentrée, en fait, viendront s'organiser de nouvelles élections. On recherchera de nouveaux jeunes pour un nouveau mandat 2019-2021.
Et depuis quand le Conseil des collégiens existe-t-il ?
Le Conseil des collégiens a été créé en 2005.
Merci Pascal. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Alors avant, on aimerait remercier Christophe Tréhé, journaliste indépendant, PC Presse avec Maris, Marie-Claire, CDOS, Comité départemental olympique et sportif, et Romain et Nicolas de la radio HDR. Sans oublier Victoire, qui m'a accompagné pendant cette émission, et tous les jeunes du conseil départemental des collégiens.
Merci Baptiste, je trouve que tu as été un très bon animateur aujourd'hui.
Merci Victoire, de même. Et au revoir à tous, au revoir à toutes. C'était Victoire et Baptiste sur radio HDR.